Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre santé, un trésor. C'est une sous-émission de Votre santé, un trésor que je vous propose aujourd'hui, une sous-émission médecine et soins à Nîmes. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Camille Lapierre. Nous avons siégé ensemble, le docteur Camille Lapierre et moi, au sein du Conseil de l'Ordre des médecins du Gard. Il en était le vice-président. J'étais tout jeune élu. J'ai été un, si ce n'est le plus jeune conseiller ordinal français. J'atteignais juste la limite d'âge pour être élu. Je me rappelle très bien de cette séance. Il m'a dit alors qu'il pouvait être mon père. « Tu peux me tutoyer ». Depuis, je le tutoie et je l'appelle Camille. Alors bonjour à toi Camille et bienvenue avec nous.
Bonjour Jacques et merci de me recevoir.
Camille Lapierre a toujours été important pour moi. C'est lui qui nous a mariés, mon épouse et moi, sur les recommandations de mon grand ami Jean-Daniel Valade. J'étais encore interne, il était chirurgien et premier adjoint au maire. C'est vous dire. Gérant de la clinique Kennedy à Nîmes, c'est en grande partie à lui que je dois d'y avoir pratiqué et accompagné beaucoup de patients douloureux ou en soins palliatifs. Il m'a fait l'honneur, en tant que président régional de l'Ordre des médecins du Languedoc, de participer à mes enseignements universitaires. Il a préfacé un de mes romans, coécrit avec Nathalie Rivière. Peux-tu nous raconter, Camille, ton enfance, tes études et pourquoi devenir chirurgien ?
Eh bien, mes études, ça s'est passé à Montpellier, mais pourquoi je suis devenu médecin ? Je suis né en Algérie, à Molière-Boukaïd, dans le Constantinois. Et vers l'âge de 5 ans et demi, est arrivé un petit frère, Robert, qui est devenu chirurgien lui-même à Marseille. Et j'ai assisté donc à la naissance. Et comme on le disait à l'époque, ma mère m'avait dit « on va recevoir un grand paquet de la Samaritaine et dedans, il y aura un petit frère ». Donc j'étais monté sur la fenêtre pour essayer de voir par curiosité comment on ouvrait ce paquet. Et là, je vois arriver quelqu'un, magnifique, un homme jeune, bien habillé, cravate, chemise blanche, qui me tape sur les fesses et qui me dit « Petit curieux, qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'était le médecin qui venait accoucher ma maman. Je ne sais pas si ce phénomène-là a provoqué chez moi cette intuition, mais à partir de ce jour-là, j'ai toujours dit que je serais médecin et je suis donc devenu médecin.
Et alors, c'est une naissance qui t'a fait naître, en fait, c'est extraordinaire ça.
Oui, c'est
la naissance de ton jeune frère qui t'a fait naître, qui a fait naître le médecin et le grand chirurgien que tu as été.
Absolument, c'est exactement de cette façon que ça s'est passé. Et j'en suis heureux et j'ai vécu ce métier avec une passion énorme. Je crois que quand on vit un métier avec passion, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression de...
Tu conserves encore cette passion encore,
ça se voit. Je conserve encore cette passion, mais il y a quand même 25 ans que je suis à la retraite. J'ai un peu oublié, mais il est vrai que la première et la deuxième année, je me suis arrêté à 68 ans. C'était difficile de ne pas aller à la clinique, c'était difficile de ne pas avoir envie d'opérer. Et c'est vrai que ça a été... un petit peu douloureux au départ. Mais, j'avais quand même. Je me suis dit, tu vas avoir 68 ans, tu vas avoir ta retraite, tu es trop jeune pour ne rien faire. Il faut donc que tu réfléchisses. Une retraite, ça se prépare. Je me suis dit, comment, dans quel domaine pourrais-tu aller ? Bon, il y a des choses que j'aime. J'aime sculpter, j'aime peindre, je le fais toujours. Mais je me suis dit, il faudrait que tu restes dans un domaine qui te convient le mieux. Quel est le domaine dans lequel tu seras le mieux ? C'est le domaine médical et paramédical, puisque tu as toujours vécu avec passion ta médecine et ta chirurgie. Donc je me suis dit, tu vas essayer de t'impliquer dans certains organismes. Je me suis donc impliqué à l'ARMAV, Association de réadaptation des aveugles et des malvoyants, dont je suis le président depuis X années. Je me suis impliqué ensuite dans la maladie d'Alzheimer, et je suis président de France Alzheimer Gard. Je me suis ensuite impliqué dans l'hémochromatose que tu connais, Jacques, cette maladie par excès de fer due à l'absence d'hormones de régulation et qui, bon an mal an, quand même cette maladie, qui est la maladie génétique la plus fréquente en France, donne en moyenne entre 2 et 3 morts par jour, ce qui me paraît important.
Mais on va revenir sur tout ce que tu fais actuellement. Et, mais je me rappelle de cette période de transition que tu as vécue, parce que je t'ai vu travailler à la clinique, je t'ai vu opérer, et j'ai vu la prise de retraite, mais il a toujours été actif. Alors, quand j'étais installé à Nîmes, il suffisait en consultation de dire à des patients, de demander leurs antécédents, ils étaient opérés. Par qui vous avez été opéré? On a été opéré par le docteur Lapierre. Donc, tout le monde avait été opéré par le docteur Lapierre. Alors, comment était la médecine et la chirurgie au moment de ton installation à Nîmes? Quel était l'état des lieux de la chirurgie et de la médecine? Bon, tu t'es installé en quelle année?
Je me suis installé en 60, mais je suis arrivé ici le 1er août 1953 et j'ai fait ce jour-là ma première intervention chirurgicale.
C'était à quel endroit?
C'était à La Rioche, donc j'étais reçu interne. Et arrive une malade pour un avortement. Et vous savez qu'à l'époque, c'était interdit. Cette femme avait été donc probablement bricolée, elle saignait énormément. J'appelle le chef de service agrégatif, le docteur Fayot, qui me dit « Vous êtes qui ?» J'ai dit « Je suis le monsieur Lapierre. »« Mais vous êtes qui? Vous êtes quoi ?» Il est stagiaire ?« Non, monsieur, je suis interne. » »« Sur concours, oui. Démerdez-vous. » J'ai donc fait mon premier curetage et ce fut ma première intervention chirurgicale.
Rue Hoche, alors, tu as commencé à faire la chirurgie
ou... À La Rue Hoche, et je suis resté à La Rue Hoche de 1953 à 1960. D'abord comme interne. Ensuite, comme assistant chef de clinique, et ensuite, pendant 2 ou 3 ans, j'ai été l'adjoint, chirurgien adjoint, ça s'appelait comme ça à l'époque, du docteur Simoneau, qui a été en fait mon maître en chirurgie ici sur Nîmes.
D'accord, et alors, après tu t'es installé en ville?
Après, en 60, je me suis installé en ville, j'ai travaillé dans toutes les cliniques, et là aussi, je pourrais te dire que quand je me suis installé, il y avait 12 cliniques à Nîmes, il en reste aujourd'hui 3, toutes vendues à... Un fonds de retraite américain, c'est dire l'évolution de cette médecine qui n'évolue pas dans le bon sens, à mon avis.
Et alors, tu opérais dans toutes les cliniques ou tu avais quand même des relations particulières avec cette...
Ah, j'opérais pratiquement dans toutes les cliniques et j'étais très bien reçu, il n'y avait pas de problème particulier. Il est vrai que, bon, aux franciscaines, par exemple, il fallait donner un droit d'entrée. Moi, j'avais acheté un sialytique. Dans d'autres, il fallait payer... une part sur ses honoraires, mais dans l'ensemble, ça se passait très bien et c'est vrai qu'on n'avait pas les soucis de la gestion.
Et alors, oui, une question qu'il faut... Les anesthésistes, tu faisais de l'anesthésie?
Les anesthésistes, quand j'ai commencé en 53, il n'y avait pas d'anesthésiste. Et la profession que je pratiquais, elle n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelait chirurgien généraliste, c'est-à-dire que tu faisais absolument tout. Tu faisais un poumon, tu faisais une vésicule, une hystérectomie, des fractures de jambes.
On faisait tout, absolument tout ce
qui n'existe plus aujourd'hui. La chirurgie générale est devenue chirurgie viscérale. Des anesthésistes, il n'y en avait pas. Comment ça se passait? Il y avait deux possibilités. Soit le médecin traitant, et tu l'as été, tu sais ce que c'est, prenait un masque, une compresse, vidait de l'éther et faisait l'anesthésie. Soit c'était une religieuse ou une infirmière qui me faisait l'anesthésie. Mais les anesthésies n'étaient pas très bonnes, c'était très difficile, il fallait être vraiment très adroit et rapide pour pouvoir opérer correctement.
Oui, alors après, tu as créé la clinique Kennedy.
Alors ça, c'était...
En deux mots, parce que je compte te réinviter pour une émission spéciale clinique Kennedy, en deux mots.
Oui, en deux mots. En deux mots, lorsque j'étais au franciscain, je descendais les escaliers avec Gojou père, c'est-à-dire André Gojou. Et il me dit...
Il faut signaler que Daniel Gojou a opéré à la clinique et aussi est un grand chirurgien.
Oui, donc il me dit, vous savez, on risque un jour ou l'autre, les religieuses disparaissent, de ne plus avoir d'outils de travail. Aujourd'hui, on a tous de très belles clientèles, mais vous ne pensez pas qu'on pourrait créer une clinique qui serait notre outil de travail? Et à ce moment-là, je lui dis, monsieur, laissez-moi 48 heures pour réfléchir, c'est quand même un gros truc, j'avais 39 ans à l'époque.
Ça fait rêver quand on entend ça actuellement, oui. Ça fait rêver.
Et puis donc, je lui dis, monsieur, bah écoutez, je suis d'accord, on y va. Donc il nous a fait payer un terrain qu'il avait, l'endroit où se trouve Kennedy, qui nous a fait payer, c'est un garçon qui était honnête, il a dit tel prix, il n'a jamais bougé, il nous l'a fait à des façons... de façon assez correcte et qui ne représentait pas la véritable valeur. Et Kennedy a démarré.
Il y avait M. Ray aussi, non?
Il y avait M. Ray père, André Ray, qui est décédé depuis. M. Gojou est décédé depuis. Et le quatrième qui nous a aidés, c'était le docteur Pierre-Alain Dorn, qui est ophtalmologiste et qui malheureusement a disparu lui aussi. Je suis donc le seul survivant de cette époque et de ses créateurs.
Mais c'est pour marquer ton souvenir que je t'ai invité et que je suis très heureux que tu puisses nous parler. Alors je vous propose une petite trêve musicale avec la musique de Ludwig van Beethoven, concerto pour piano numéro 5, Adagio un poco mosso. Vous écoutez Votre Santé un Trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Camille Lapierre. Après le médical et la chirurgie, Camille, parle-nous de ta longue carrière politique et de ton implication dans notre cité de Nîmes.
Oui, alors ma carrière politique, on ne peut pas dire que ce soit une réussite parfaite.
Ah ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu étais quand même à la région.
Oui, mais je n'étais pas un véritable politique. On est un véritable politique quand on commence à 15 ou 16 ans ou 20 ans. Disons qu'en 1953, Non, bien plus tard, 1983, je reçois un jour un coup de fil de Jean Bousquet, qui me dit « j'aimerais vous rencontrer ». C'était Maurice Bousquet, nous faisions partie avec son frère Maurice Bousquet d'un club qui s'appelait le Club des 40. Et Maurice Bousquet avait son frère, tu l'aurais demandé à la pierre, il est très connu, je pense que politiquement ça t'aiderait. Donc il m'appelle et je lui dis, moi si c'est pour parler de foot, ne comptez pas sur moi, je ne mettrai jamais un sou dans l'équipe de foot de Nîmes.
Il faut dire que M. Bousquet était président du club de foot de Nîmes.
M. Bousquet à l'époque était président du Nîmes Olympique et on joue encore à Jambouin.
Oui.
Ça date de quelques instants. Et il me dit, non, c'est pas ça, venez. Donc je vais le voir dans sa belle villa là-bas de Courbesac. Et puis au bout d'un moment, après peut-être une bonne heure, on a parlé de tout, sauf on ne parlait pas de politique. Il me dit, voilà, j'ai l'intention de me présenter à la mairie. J'aimerais bien que vous soyez dans la liste. Je dis, monsieur, moi je ne peux pas, j'opère, ce n'est pas possible que je puisse rentrer. Et j'ai refusé 4 ou 5 fois. Et il a insisté. Et au bout d'un moment, il me dit, mais si vous voulez, mettez simplement votre nom. Et puis, ça me suffira. J'ai besoin de vous, ça me ferait plaisir. J'ai dit, bon, vous mettez mon nom, mais je ne pourrai pas travailler, c'est pas possible, j'aurai pas le temps de tout faire. Voilà comment ça s'est passé. On s'est présenté. Il a été d'ailleurs assez bon. On a donc éliminé Émile Jourdan et on a été élu. Je me suis retrouvé, non pas premier adjoint, le premier mandat, mais troisième adjoint. Et je m'occupais de tout ce qui n'était ni finance ni administration, c'est-à-dire de la culture, du sport. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai connu Daniel Jean Valade, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Et alors, après, quand même, tu as été élu à la région.
Alors, j'ai fait 4 mandats.
Parce que tu n'as pas fait une grande carrière politique, mais tu vas nous décrire tous les mandats que tu as eus.
J'ai fait 4 mandats municipaux, 2 dans la majorité et 2 dans l'opposition. J'ai fait 2 mandats de conseiller départemental qu'on appelait conseiller général à l'époque au chemin Bas-d'Avignon, c'est-à-dire 14 ans. Et j'ai fait pendant 6 ans, j'ai été conseiller régional auprès de Jacques Blanc. Donc voilà tout ce que j'ai fait en politique. Non mais pourquoi je dis la politique et pourquoi je fais la politique? Parce que tant que j'ai fait de la chirurgie, ma réputation était parfaite. Du jour où vous commencez à faire de la politique, là ça commence à déglinguer,
oui,
on parle mal de vous. Je te dirais même mieux, c'est que sachant que j'étais dit de droite, j'ai vu des médecins communistes et des médecins socialistes ne plus m'envoyer un seul patient.
Ne plus t'adresser le patient. Et puis tu as eu une carrière ordinale. Moi, je t'ai connu à l'ordre de la gare, où tu étais vice-président.
Je pense que c'est ce dont je suis le plus fier. J'ai d'abord été président de la section disciplinaire de la région. J'ai succédé à Flesler, qui est un anesthésiste de grande qualité, un ami, et qui était un garçon très intelligent et qui a fait un très bon président. À son décès, donc, je suis devenu président. Mais il faut que tu saches qu'il n'existait à l'époque qu'un conseil départemental et un conseil national. Il n'y avait rien entre.
Oui.
Et alors on a créé, et c'est moi qui ai créé, le conseil régional de l'Ordre des médecins. Je l'ai créé en tant que structure administrative, mais aussi en tant que bâtiment. Donc j'ai tout créé, j'ai pris un secrétariat, et là, on est devenu donc conseil régional de l'Ordre des médecins, auquel était attachée la section disciplinaire que j'ai présidée pendant près de 15 ans.
Donc c'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais vous pouvez constater que ce n'est pas vrai. Alors évoque-nous, si tu veux, maintenant, Camille, tes nombreuses actions associatives. Tu as commencé un peu à... Mais continue ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses.
Oui, je fais beaucoup de choses. Il est vrai que certaines m'intéressent beaucoup, comme la présidence d'Alzheimer. Dans le Gard, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de malades, de plus en plus, il y en a plus de 10 000 dans le Gard, c'est dire l'importance. Ensuite, j'ai une profonde affection pour l'ARAMAV, l'ARAMAV étant l'association de réadaptation des aveugles et des malvoyants. C'est un centre avec une clinique de 20 lits d'hospitalisation complète et 8 lits d'hospitalisation de jour. Donc ça me paraît important et c'est des gens qu'on nous confie, c'est assez curieux, mais ça me paraît formidable de dire que c'est un lieu miraculeux. On nous confie des gens incapables de faire un pas s'ils ne sont pas accompagnés, incapables d'ouvrir leur porte, incapables d'aller au WC tout seul, incapables d'aller à leur cuisine tout seul. Ils viennent chez nous, on les hospitalise entre 2 et 6 mois et ils repartent, ils sont capables de traverser la ville, de traverser un passage clouté, de prendre un bus, de prendre un avion, de prendre un train, c'est quand même, à mon avis, miraculeux. Et je suis très attaché à la RAMAV dont je m'occupe et que je préside depuis fort longtemps. C'est donc une association qui, au travers d'un directeur, qui est Jean-Richard Couton, dirige une clinique dont je viens de parler.
Bon, des associations donc, qui s'occupent de malades en tant que médecin, c'est passionnant.
C'est passionnant,
et oui. Puis alors, tu es président du Cercle Mozart de Nîmes.
Oui, et puis je te dis aussi que j'étais président d'une association nationale, ce qui est très rare d'avoir une association nationale dont le siège social est à Nîmes, c'est l'hémochromatose de France. C'est une maladie donc, par excès de fer et qui donne des troubles assez sérieux, puisque ce sont des douleurs articulaires. Et c'est dommage, parce que c'est une maladie qui est la maladie génétique la plus fréquente. Si on en fait le diagnostic avant 40 ans, il y a un procédé qui est moyenâgeux, mais qui est formidable, c'est la ponction de sang, c'est-à-dire...
Une saignée.
La phlébotomie, la saignée, qui permet de faire que ces malades arriveront aussi vieux que nous.
Alors, on va rassurer nos auditeurs. On ne fait pas de saignée en coupant les veines avec... On fait des saignées en faisant une prise de sang et en collectant du sang. Et ça se fait pareil.
Absolument.
Et c'est beaucoup moins traumatisant. Et alors, tu fais partie quand même d'une société savante qui est l'Académie Cévenol.
Oui, je fais partie depuis déjà de nombreuses années de l'Académie Cévenol, dont j'ai été président pendant un an ou deux au début de ma carrière académique. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une académie à la fois scientifique et littéraire. Et on a des topos relativement intéressants, puisque pas plus tard que hier, nous avions une conférence sur l'intelligence artificielle qui a passionné tout le monde, et où il y avait beaucoup de monde qui était là pour écouter notre...
Conférencier,
je cherchais le terme, merci.
Parce que tu es un peu Cévenol quand même, tu as vécu. Même
ah, je suis un peu l'exception, je suis un Cévenol catholique. Ah, c'est rare, il y a beaucoup de Cévenol.
Tu es un pied noir Cévenol catholique.
Voilà.
Bien, comme quoi, hein. Eh bien, je te remercie infiniment d'avoir été parmi nous, d'avoir témoigné, de nous avoir appris ce qu'était la médecine quand tu t'es installé. Et j'ai une question indiscrète à te poser, tu as quel âge ?
Eh bien, pour ne rien vous cacher, je suis dans ma 93e année, j'attaquerai ma 94e dans 2 mois.
Vous voyez que c'était exceptionnel, la médecine fait des miracles. Je peux en témoigner parce que Camille est en face de moi, il est magnifique, il est extraordinaire. Merci à toi Camille, merci vraiment d'être présent avec nous aujourd'hui.
Merci Jacques, tu as toujours été un ami et tu le resteras toujours.
Merci. J'ai l'habitude de finir mes émissions par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé. Aujourd'hui, je pourrais vous inviter à lire la préface de notre roman que j'ai écrit avec Nathalie Rivière, L'étrange combustion de Tristan Thibault, que Camille Lapierre a préfacé, mais je lui ai demandé de nous faire part de quelques conseils de lecture. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de lire ?
Aujourd'hui, le dernier livre, je lis beaucoup, je lis énormément. Mais j'ai lu un livre qui m'a passionné, peut-être parce que je suis un peu pied noir, et toi aussi, c'est Le Nageur. Le Nageur, c'est un livre qui a été écrit par Pierre Asseline. Pierre Asseline est un auteur qui fait partie de l'Académie Goncourt. Et Le Nageur, c'est en fait toute la vie de Nakad. Nakad était un grand nageur. Moi, je m'en souviens, j'avais 9-10 ans quand il nageait encore. C'est un grand nageur qui a été champion du monde plusieurs fois, qui a parlé toute son histoire de Constantine où il était né, et puis qui un beau jour avait un rival qui perdait toujours contre lui et qui est devenu SS pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a dénoncé aux Allemands. Il a été déporté, sa femme et sa fille sont morts, et lui a repris, tenez-vous bien, après un an de Dachau, il a repris l'entraînement et il a de nouveau été champion de France.
Alors ça s'appelle Le Nageur.
Le Nageur de Pierre Asseline.
Très bien. Eh bien, je te remercie pour ce conseil érudit de lecture. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention, de l'écoute de votre santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.